C'est pour un contrôle.
Ouais, c'est important. Oui, alors l'idée c'est de, je vais faire une introduction à peu près une demi-heure, et puis il y aura à peu près le même pour débattre. Moi, je suis pas spécialement un grand expert sur le sujet. Je suis sûr que vous avez autant à dire que moi, mais je vais poser certaines des grandes questions, et puis ça nous donnera un cadre pour débattre. Et alors, je commence un peu par la situation politique parce que c'est pas très très difficile de mettre les gens d'accord que le capitalisme, ça marche mal. Il y a les émeutes contre la faim, il y a les profits, les milliards des milliards qui font qu'on profite tous les jours. On voit régulièrement dans la presse les 10 hommes les plus riches de la France, etc. Ce qui est plus difficile, c'est donc les anticapitalistes, on peut en trouver. Ce qui est un peu plus difficile, c'est quand on passe à l'autre partie, c'est qu'est-ce qu'on met à la place. Et qu'est-ce qu'on met à la place, ça dépend un peu d'une des thèses centrales du marxisme, qui est l'idée que les travailleurs ont tous les mêmes intérêts, que cette classe prend un poids de plus en plus important dans l'économie au niveau mondial, et donc voilà qu'il y a une polarisation entre la petite poignée de riches et la grande masse des travailleurs. Et c'est de cette contradiction que peut sortir une nouvelle société. Là, c'est plus difficile de convaincre les gens. Et alors, c'est assez important de pouvoir mettre en place, de pouvoir avoir une théorie de qu'est-ce que c'est la classe ouvrière, qui est à la fois suffisamment complexe pour expliquer un peu la société et suffisamment simple pour expliquer facilement autour de nous. Parce que c'est important aussi d'avoir des théories pour les experts, pour le détail et tout ça. Mais il nous faut une théorie qui est aussi pédagogique. Mais en fait, quand on regarde les idées qu'on voit dans la presse sur la classe ouvrière, on voit surtout des idées très très rigides, voire bizarres. On voit d'un côté l'idée que la classe ouvrière, ça n'existe plus, c'est fini. D'ailleurs, je cherchais dans le Nouvel Obs, classe ouvrière, et j'ai trouvé des articles du genre « Un monde disparu », souvenir d'un monde qui n'existe plus, etc. Bon, vous imaginez, vous avez déjà vu tout ça. C'est un peu dans les mœurs, c'est l'idée que voilà, la classe ouvrière aujourd'hui, bon, c'est quand même quelque chose du passé. Ça d'un côté, et d'un autre côté, on voit, à la place d'une analyse de classe, on voit toute une série d'analyses journalistiques, comme quoi ce qui compte, c'est pas si on est travailleur ou pas travailleur, ou capitaliste ou ouvrier, ce qui compte, c'est le style de vie. Alors, pour chaque article sur la classe ouvrière, on trouve 300 articles sur les bobos. Et pour chaque article sur la classe ouvrière, on trouve 1000 articles sur les exclus. Alors, c'est toutes ces catégories qui sont pas toujours inutiles, mais qui n'ont pas de base dans la situation matérielle des gens et qu'est-ce qui leur donne le pouvoir de changer quelque chose. Alors, quels sont les arguments qu'on nous oppose? D'abord, on nous dit que la classe ouvrière représente désormais une minorité des exploités et des opprimés, et donc qui n'a plus la force pour renverser le système en place. Ça, c'est la première chose qu'on nous dit. Deuxième chose qu'on nous dit, c'est différentes versions. L'essentiel des travailleurs sont trop privilégiés pour pouvoir renverser le système en place. C'est surtout quelque chose qu'on voit dans une partie des milieux qui s'occupent du tiers-monde. Ils disent « Ah oui, non mais bon, voilà, hein, en Europe, les travailleurs européens, ou parfois on a une version francophone, c'est les travailleurs américains sont tellement privilégiés que maintenant ils ne vont plus jamais se révolter. » Troisièmement, c'est un peu l'idée, les travailleurs, de toute façon, ils sont trop divisés, trop influencés par les médias, c'est tous des beaufs, et tout ça. Ça, le type d'argument qu'on nous oppose. Et alors, nous, moi je pense que ce qui est intéressant pour nous de dire, c'est trois éléments que je vais essayer d'expliquer. Le tout premier, c'est que la classe ouvrière est plus grande qu'elle n'a jamais été, que ce soit en France ou que ce soit au niveau mondial. Et je vais expliquer un peu pourquoi on peut dire ça. Deuxièmement, on a tous les mêmes intérêts à l'intérieur que de la classe ouvrière. Les salariés, les mêmes intérêts que les chômeurs. Les employés des services, les mêmes que les ouvriers de l'industrie. Les travailleurs du secteur public, les mêmes que les intérêts du secteur privé. Donc ça, c'est quelque chose que pour nous, bon, ça peut aller un peu de soi, mais c'est bien d'avoir un certain nombre d'arguments pour quand on nous sort, ouais, mais quand même, ces cheminots, quand même, ces enseignants, etc. Hein? Donc c'est pas seulement d'être sur nous-mêmes, mais c'est aussi de savoir l'expliquer et avoir un peu les faits. Alors, comment on peut regarder la France aujourd'hui du point de vue de la classe sociale? Bon, une analyse de classe, c'est un peu comme une carte de la société. Et on ne dessine pas la même carte, on ne dessine pas le même plan de quartier si on est architecte ou si on est guide touristique. Et encore un autre plan de quartier si c'est, on veut organiser une fête et on veut que la personne se perde en route. Et différentes personnes, donc ils analysent la société en classe pour diverses raisons. Les entreprises de marketing, bien sûr, eux, ça les intéresse beaucoup d'avoir des catégories qui veulent acheter ceci ou cela. Alors, ils analysent effectivement donc, des phénomènes comme les bobos et des choses comme ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais nous, pourquoi nous on veut analyser les classes sociales? C'est pour pouvoir changer la société, c'est pas simplement pour avoir une jolie théorie. Et la tradition marxiste a toujours rejeté l'idée que ce qui compte, c'est le prestige, les habitudes culturelles ou les goûts artistiques. Pour nous, le monde n'est pas divisé entre ceux qui mangent chez McDo et ceux qui ne mangent pas chez McDo. C'est pas divisé entre les bobos et les pas bobos. Et d'ailleurs, quand on prend le même bureau des employés, on trouve à l'intérieur du même bureau des gens qui ont un style de vie très très différent. Celui qui refuse d'avoir la télé chez lui parce que c'est mauvais, et l'autre qui trouve que c'est génial. Le style de vie n'est pas la division la plus intéressante pour nous. Nous, on veut mettre en avant une analyse matérialiste qui met en avant donc la situation des gens par rapport aux grandes dynamiques de la société. C'est-à-dire, quelle est la situation d'abord par rapport à la propriété des moyens de production? Est-ce que ce sont des gens qui ont que le travail pour vivre, ou est-ce qu'ils peuvent rester chez eux et l'argent arrive, des actions, des intérêts de la banque, les loyers de toutes les propriétés que nous avons, etc. Et puis, deuxièmement, leur position dans le processus de travail. Est-ce qu'ils contrôlent leur propre travail? Est-ce qu'ils contrôlent le travail des autres? Ça, c'est les deux grands critères. Et il y en a d'autres, mais je simplifie un peu. Et pour être complet, en fait, une analyse de classe doit avoir trois éléments. On veut une analyse de la position de classe, ça c'est ce que je viens de dire. Quel est le rôle des infirmières, des cheminots, des instits dans l'économie, dans la production? Deuxièmement, une analyse de la conscience de classe, comment les gens se voient eux-mêmes, c'est pas du tout la même chose. Il y a plein d'instits qui trouvent que les ouvriers de l'industrie, c'est tous des bouffes. Il y a plein d'ouvriers d'industrie qui trouvent les instits, c'est tous des privilégiés. Je ne dis pas une majorité, mais ça, on en trouve régulièrement. On en trouve régulièrement. En tout cas, les instits, je peux affirmer parce que j'en connais beaucoup. Et dernier moment, une analyse de l'action de classe. Qu'est-ce qui pousse les gens à s'unir et agir, ou qu'est-ce qui peut les pousser à s'unir et agir? Alors, pour commencer avec la position de classe, je vais passer la plupart du temps sur ça, on veut regarder un peu l'idée de l'exploitation, et je vais réviser rapidement la situation dans l'analyse marxiste classique et dire qu'est-ce qui est nouveau, parce que ça fait quand même 150 ans d'aujourd'hui. Alors, la première chose à dire, c'est qu'en réalité, Marx était très avant-garde pour l'époque, parce que quand lui, il parlait que la classe ouvrière, ça va être le centre de la société, en réalité, le plus grand groupe de salariés en Angleterre où il habitait, c'était les domestiques, les bonnes à la maison. Dans la plupart des pays du monde, à l'époque, il n'y avait pas d'industrie. Alors vraiment, lui, il voyait, à l'avenir, c'est ça qui va être le centre de la société. Et là, on peut dire sur ça qu'il avait raison. Alors là, j'ai un petit peu perdu le fil, mais je voulais parler de l'exploitation. C'est pas très, très à la mode de parler d'exploitation. En général, les gens ils disent « Ah, ils sont vraiment exploités » en voulant dire qu'ils ont des salaires particulièrement bas, des salaires de misère. Mais dans le sens marxiste, c'est pas ça l'exploitation. C'est tout simplement l'idée que quelqu'un profite de toi. Alors si toi tu gagnes, je sais pas, 5000 euros par mois, mais ton patron en plus du profit, tu peux être exploité. Et d'ailleurs, c'est les plus exploités dans le sens technique, c'est pas forcément les plus pauvres. Parce que c'est quand on est très qualifié, on a des super machines, qu'on produit plein de choses, et le patron profite d'autant plus. Alors, le modèle classique, c'est le travailleur qui vend 39 heures de son temps de travail un patron, et il est payé, je ne sais pas, disons 500 euros, assez pour qu'il survive la semaine, qu'il nourrisse ses enfants. Là. Petite déformation culturelle, là je parle le salaire à la semaine, comme en Angleterre. Et lui, il va produire, en réalité, les 1 500 € qu'il est payé, il va les produire en valeur ajoutée en, mettons, 10 heures. Pas en 39 heures, mais en 10 heures. Et les 29 heures restantes de la semaine, c'est du travail non payé. C'est pour le profit du patron qui peut choisir de réinvestir, de le mettre à sa poche, etc. Et ce travail non payé, ça c'est le secret caché de l'exploitation capitaliste. L'échange paraît équitable, j'ai signé un contrat, pas signé un contrat, mais en réalité c'est pas équitable du tout, parce que une partie des fruits du travail va au travailleur, mais une très grande partie va au patron. Alors ça c'est un peu la version classique, et d'ailleurs ça reste vrai pour toute une série de cas. Dans une usine moderne, un travailleur peut produire pour des centaines de milliers d'euros de produits par mois. Je sais que à Renault, il y a quelques années, ils produisaient 36 véhicules par salarié et par an. 36 véhicules par salarié et par an, alors, hein, ça en produit. Ça en produit de la richesse. Alors, c'est pour ça que quand il faisait grève, le patron il paniquait plus que certains autres grèves. Hein. Plus il y a d'investissement dans le travailleur, et plus ça le fait peur hein, quand il fait grève. Mais la plus grande partie des salariés aujourd'hui ne travaillent pas en usine. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas exploités. Et alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ce schéma à la caissière du supermarché, à l'employé de la sécurité sociale, l'assistant en laboratoire, la STIT, au cuisinier chez McDonald's? En réalité, je pense qu'il faut, faut voir le travailleur aujourd'hui comme un travailleur collectif. Tout comme on n'a plus tellement le patron individuel, voilà le patron individuel, c'est lui le chef, très souvent c'est un réseau d'actionnaires, qu'on ne voit jamais d'ailleurs. De la même façon, je pense que la manière la plus utile de voir les travailleurs, c'est le travailleur collectif. Alors, je vais essayer d'expliquer. L'exploitation aujourd'hui, pour produire 1 milliard d'euros de richesse, on va imaginer, il faut que 10 000 salariés travaillent pendant un mois. Je choisis les chiffres comme ça. On veut 1 milliard de richesse, 1 milliard d'euros de richesse. Il nous faut 10 000 salariés qui travaillent pendant un mois. Le montant total de le salaire, y compris le service social, le droit à la retraite, tout ça, et tout ça, va être que de 400 millions d'euros, on va dire. Hein? J'invente un peu les maths. Et le reste, le montant du travail non payé, est partagé entre les entreprises différentes, les banques, l'État, et puis, bien sûr, les plus grandes entreprises, ils prennent plus que les autres. Mais si on a besoin de 10 000 travailleurs qui travaillent tout le mois pour produire 1 milliard d'euros de richesse, ils ne travaillent pas tous dans l'industrie. Il nous faut aussi des conducteurs de train, il nous faut aussi des camionneurs, il nous faut aussi des infirmières, des aides-soignantes, des instits. Et je pense que dans l'exemple que j'ai mis, j'ai supposé qu'il faut 1000 ouvriers de production, 1000 techniciens, 200 secrétaires, 50 comptables, 40 enseignants, 20 infirmières, 10 avocats. Les avocats, c'est un cas spécial. Les avocats, c'est tous des bourgeois jusqu'à ce qu'on en ait besoin. C'est clair. Alors, je pense que c'est ça, et même aussi des ouvriers de construction des routes, des cheminots, etc. Alors, selon ce schéma, donc l'infirmière, tout comme l'ouvrier, est exploitée. Pourquoi? Parce qu'elle ne reçoit pas dans son salaire sa part des richesses produites. Elle participe à une œuvre collective qui est de produire la richesse, et ne reçoit pas sa part. Donc elle fait 1% du boulot qu'il faut et elle ne reçoit pas 1% des richesses. Alors ça c'est un peu le cadre. C'est pas si surprenant parce que déjà dans la théorie de Marx, il avait parlé du capitalisme collectif. Il avait dit que c'est pas du tout simplement une question d'individus. Et il reste aujourd'hui des capitalistes individuels. Bernard Arnault, c'est l'homme le plus riche de la France en 2007. Il a une fortune de 19 milliards d'euros. Moi, je trouve que c'est excessif. Moi, j'ai toujours trouvé que 17 milliards d'euros, ça me suffisait. Je ne sais pas ce qu'ils font de tout cet argent. Alors, voilà un peu le cadre général. Et alors, maintenant, je veux regarder les catégories différentes. Et à la demande de Céline, j'ai un petit liste de stats pour vous. Voilà. Je sais que tu aimes ça. Et alors, ne le lisez pas tout de suite. Je vais vous le lirez à votre loisir. Mais au fond, c'est pour voir qui est qui dans la structure de classe en France aujourd'hui. La première chose, c'est que quand les gens disent ah oui, les ouvriers disparaissent, parce que moi je dis classe ouvrière pour un peu tout le monde, c'est tous ceux qui travaillent, les employés, les infirmières et tout ça. J'expliquerai pourquoi. Je pense que c'est mieux que dire prolétariat. C'est pas une question de principe, mais ça passe moins, hein, les gens ils comprennent moins. Mais les ouvriers, disons les ouvriers d'industrie, quand les gens disent que les ouvriers disparaissent, il en reste quand même 6,2 millions. Hein? 6 millions d'ouvriers en France aujourd'hui, contre 7,5 en 90. La population active de la France aujourd'hui, c'est 27,6 millions. En tout cas, c'était à 27,6 millions de personnes cet après-midi quand j'ai vérifié. Voilà. Oui, voilà.
Avec les chômeurs.
Avec les chômeurs, oui, tout à fait. Alors, la première chose, les ouvriers. Il y a un peu plus de 6 millions d'ouvriers, mais il faut voir aussi que le fait qu'ils soient beaucoup moins nombreux qu'il y a 20 ans, les ouvriers industriels, ne veut pas dire qu'ils ont moins de pouvoir. Au contraire, quand on a des ouvriers qui sont plus qualifiés parce qu'il faut avec les usines modernes, quand ils font grève, ça coûte plus cher. En plus, les nouvelles méthodes de production telles que le flux tendu, on n'a plus de stock dans les usines, ça veut dire qu'une grève, ça peut peser plus fort aujourd'hui dans certaines situations. Ce n'est pas du tout le cas que puisqu'ils sont 6 millions et il y a 30 ans, ils étaient 12 millions, ils sont deux fois moins puissants, pas du tout. Et d'ailleurs, on a vu plus clairement, je pense qu'on a vu en 95, c'est le transport public, surtout en région parisienne. Il y avait combien de conducteurs de métro? Quelques milliers. Et ça a bloqué l'économie. Le pouvoir reste intact, même s'il y a moins d'ouvriers. Regardons maintenant les employés. Aujourd'hui, il y a 8,1 millions d'employés. Ça fait 29,5% de la population active, oui. Ce n'est pas difficile, je pense, pour les gens de supposer que ce sont des gens dans la même situation que les ouvriers, que ça fait partie de la même classe. Je pense que ça, c'est pas si difficile. Il faut avoir les arguments quand même, hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont que le fort travail à vendre. Ce sont des gens qui ne contrôlent pas leur propre processus de travail au boulot. Ce sont des gens qui sont facilement licenciés. C'est pas comme le cas de SUP. D'ailleurs, l'autre chose, parce qu'une des erreurs des sociologues, c'est toujours de compter les individus à voilà un chômeur, un ouvrier, un employé, etc. Parce qu'en réalité, la société ne marche pas comme ça. C'est qui les employés? C'est souvent les épouses des ouvriers, les enfants des ouvriers, les mamans des ouvriers, et vice-versa, quoi. C'est vraiment, c'est un seul, il n'y a pas un milieu, il n'y a pas des quartiers d'employés et des quartiers d'ouvriers. Alors, il y a peu le cas. C'est un peu plus compliqué dans certaines régions du Nord où il y a encore les communautés traditionnelles. Mais c'est sûr qu'en Agen, je ne pense pas qu'on puisse dire voilà un quartier employé, voilà un quartier ouvrier. Non, ça ne veut pas dire, bien sûr, que les employés forcément pensent « je fais partie de la classe ouvrière tous les 1er mai, je suis en France internationale ». Au contraire, il y a eu un sondage tout récent, bon, 2003, sur l'ensemble de la population française, vous vous sentez appartenir à quelle classe sociale? À quelle classe avez-vous le sentiment d'appartenir? La classe ouvrière, 24%. Il y a 24% des gens qui pensent qu'ils font partie de la classe ouvrière. La bourgeoisie, 3%. Classe défavorisée, 7%. Classe privilégiée, 8%. La classe moyenne, 42%. Alors, les sociologues qui partent simplement des impressions des gens, ils sont complètement paumés. Parce que je ne sais pas à quoi ça correspond l'idée d'une classe moyenne qui soit la plus grande, parce que c'est moyenne entre quoi et quoi. Ça ne correspond plus à grand-chose. Non, pour nous, l'appartenance à une classe dépend avant tout à des facteurs objectifs. Être obligé de travailler pour vivre et être obligé d'utiliser, si on veut améliorer sa position, d'utiliser l'action collective. D'ailleurs, c'est pas forcément une question de niveau de vie. Il y a plein d'épiciers qui gagnent moins que des ouvriers, hein, qui vraiment galèrent. La différence, c'est que quand les ouvriers voient qu'il y a 10 personnes de licenciées dans l'usine, ils en la trouillent. Quand l'épicier voit qu'il y a une épicerie juste à côté qui a fermé, il fait la fête. parce que sa situation le pousse en concurrence et n'unit pas, ça ne rassemble pas les gens. Donc rapidement sur les employés, parce que je veux passer au cadre et des gens plus compliqués et bizarres comme les profs de fac. D'où viennent ces employés? Donc la toute première chose, c'est que la concentration des entreprises massive, l'expansion massive de l'administration et la destruction des petits commerces, ça produit des employés par masse. Même aujourd'hui, ça continue chaque année, le nombre de boulangeries et épiceries qui ferment et qui sont remplacées par des grandes surfaces, c'est-à-dire que ça fabrique des employés, là où avant, c'était des petits patrons, ce qui veut dire en fait une classe ouvrière plus grande, une possibilité d'action syndicale plus large. C'est pas garanti, hein, c'est des possibilités, c'est des potentiels. Les employés de commerce, etc. Je veux passer à la prochaine catégorie selon l'INSEE. Maintenant, l'INSEE fait ses catégories pour ses raisons à lui. Hein, c'est pas tous des marxistes. Quoi. Cela dit, ils sont obligés de refléter en partie la vérité parce qu'ils veulent que le gouvernement sache ce qui se passe dans le pays. Les professions intermédiaires. Alors, les professions intermédiaires, ça fait 6,4 millions de personnes. Alors, encore une fois, ce n'est pas si intermédiaire que ça, quelque part, parce que c'est énorme. Dont instituteurs et assimilés, 930 000. Je ne sais pas ce que c'est des assimilés. On m'a assimilé à un instituteur. Ça a l'air affreux. Mais je pense que c'est... Maintenant, c'est la même chose. Je veux dire, l'instituteur, aujourd'hui, en début de carrière, gagne 1500 euros brut. En tout fin de carrière, quand il est crevé, parce que 30 ans avec les gamins, théoriquement, lessivé, c'est 3 000 euros brut. Alors, c'est, quand on dit profession intermédiaire, il y a toute une partie qu'on ne peut pas franchement compter parmi les classes privilégiées du point de vue de conditions de vie, mais aussi on a vu que les enseignants, ce n'est pas la dernière partie du mouvement syndical à se mobiliser. Alors il y a une possibilité d'action de classe, une possibilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'enseignants qui trouvent que puisqu'ils ont plus de diplômes que les cheminots, ils sont supérieurs. Beaucoup, il y a énormément de divisions dans la tête des gens dans la classe ouvrière. Il y a les profs de fac n'en parlent même pas, mais même les profs des collèges, etc., il y en a plein qui trouvent qu'ils sont bien supérieurs parmi les instituts. Il y en a plein qui trouvent que les ouvriers, c'est des cons et ils sont vraiment des gens bien. Hein. C'est pas si rare que ça. On les évite, mais la réalité, c'est que l'instit n'est plus l'instituteur notable du village. Aujourd'hui, c'est un ouvrier de formation qui est menacé par les aléas de la vie économique. On va passer au cadre. Ah, c'est intéressant les cadres, parce qu'en 1962, ça faisait 4,5% de la population active. En 90, 9,6%. Et en 2006, 15,4%. Cadres et professions intellectuelles supérieures. Comme les profs de fac, j'y viendrai, c'est un cas qui me tient à cœur. 15% de la population, cadres et professions intellectuelles supérieures. Et en réalité, la catégorie de cadres, du point de vue marxiste, ça ne veut rien dire. Parce que ça met dans le même sac les membres salariés de la classe dirigeante, les grandes PDG, qui sont des salariés qui reçoivent un salaire de 30 000 euros par mois. Mais bon, en réalité, ça n'a rien à voir avec la secrétaire de direction qui peut tout à fait être cadre, on peut être cadre à 3 000 euros ou à 30 000 euros. Mais c'est pas la même classe, c'est pas une catégorie réelle. Alors il y a une partie des cadres qui appartient clairement à la bourgeoisie, qui sont salariés, mais en réalité, c'est des capitalistes qui sont payés pour licencier des gens, pour restructurer, pour dominer le travail des autres. Je parle des PDG et les cadres de direction. Il y a de l'autre côté une section des cadres qui en réalité fait partie de la classe ouvrière. Et d'ailleurs, on le voit quand il y a des grandes grèves à la RATP. Je connais bien les grandes grèves de la RATP en 95. Et il y avait 60% des cadres qui ont fait grève avec les cheminots. Ça, c'est assez intéressant, hein, parce que ça dépendait beaucoup de la situation locale. Ça ne dépendait pas seulement de leur niveau de salaire, etc. Ça dépendait de la tradition syndicale dans chaque dépôt. C'est très intéressant parce qu'il y a toute une partie subjective qui est importante. Mais il y a aussi beaucoup de cadres et des professions intellectuelles supérieures qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont ni franchement classe ouvrière, ni franchement bourgeoisie. Et je pense que les profs de fac, c'est un bon exemple. Je vais en parler brièvement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont obligés de travailler pour vivre, n'ont pas en général assez de capital pour s'arrêter de vivre, en même temps qui contrôlent leur propre travail à un niveau qui est inimaginable pour les autres salariés. Donc souvent les chercheurs, les profs de fac, une partie des scientifiques, même dans le privé, c'est ce genre de ce qu'a appelé un marxiste américain des positions contradictoires, des positions de classe contradictoires. C'est-à-dire qu'ils peuvent parfois s'identifier avec les capitalistes et être une force réactionnaire, et à d'autres moments, ils peuvent s'identifier avec les travailleurs, soutenir les grèves, les grèves, etc. C'est des positions contradictoires. Et moi, on ne peut pas dire à une centaine près qui appartient à ces différents groupes. Moi, je pense qu'il doit y avoir, je ne sais pas, une moitié, 5% de la population active autour de ce genre de chiffres qui est dans des positions contradictoires où ils ont trop de contrôle sur leur travail et parfois sur le travail des autres pour être faire franchement partie de la classe ouvrière. Je pense à des gens qui peuvent être petits managers dans le privé aussi où eux ils contrôlent le travail de 50 ou 100 personnes, alors pas évident de le faire grève avec les autres. En même temps, ils contrôlent 50 ou 100 personnes. Le jour où le patron n'a plus besoin d'eux, il ne va pas leur filer 10 millions d'euros comme on te dit ça à Golden Handshake, cadeau de revoir. Quoi. Ça, c'est parachute doré, merci. Voilà, donc ça, c'est un peu la situation pour les différentes catégories. Je veux finir avec quelques mots sur la situation internationale, parce que là j'ai fait une demi-heure, alors je me laisse encore 3 minutes, c'est tout. Et c'est qu'au niveau international, la situation, quelque part, est encore plus claire. Parce que s'il y a moins d'ouvriers industriels en France, ce n'est pas le cas partout. Aujourd'hui, en Chine, il y a 7 millions de mineurs de charbon. Il y a 7 millions. Vous imaginez qu'il y a 40 ans, il y avait peut-être 200-300 000 en Chine. L'industrie a fait quelque chose de relativement récent avec la révolution industrielle sanglante des années 60 et 70. En Égypte, moi j'ai un exemple en Égypte, en 90, l'agriculture a occupé 39% des Égyptiens. Aujourd'hui, c'est baissé de 10%. Dans 13 ans, c'est baissé de 10%. Les services et l'industrie, entre les deux, c'est 20% de l'industrie et 50% services, tourisme, etc. J'ai d'autres chiffres pour le Corée du Sud, le Taïwan, etc., l'Afrique du Sud. Il y a toute une série, le Brésil, toute une série de pays où il y a de nouvelles classes ouvrières industrielles qui sont nées depuis quelques années. Alors, il y a tout ce qu'il faut pour que la classe ouvrière réorganise l'économie et arrache le pouvoir au capitalisme. Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut, sauf la conscience politique et la clarté politique et les organisations politiques. Donc il y a beaucoup de boulot, mais la situation objective n'est absolument pas cette idée d'une classe ouvrière qui disparaisse, où on est obligé d'accepter que le capitalisme, c'est tout ce qu'il y a parce qu'il n'y a plus de force pour les renverser.